L'évangile selon Jean. C'est le quatrième évangile qui est écrit, pense à peu près à 90 après Jésus-Christ. C'est bien après la destruction du temple. Et c'est là où il exerçait le ministère, l'église d'Éphèse. Et donc il était entouré par des non-juifs quand il a écrit. Et c'est pour ça justement que dans son évangile, il y a pas mal de petites précisions géographiques, qui en fait finalement qui sont archéologiques aujourd'hui. Bien sûr, avant les gens, les scientifiques, ils remettaient en cause. Mais après, avec le temps, l'archéologie ne cesse d'ailleurs de prouver que tout ce que Jean a écrit est exact. Jean, donc, il était un apôtre, apôtre qui veut dire envoyé, mais il commence bien sûr par être un disciple. Jean, qui était le plus jeune aussi des disciples originaires de la Galilée, son thème est Jésus, qui est présenté comme Dieu le Fils. Il est le Fils de Dieu, il est humain, donc c'est un témoignage, mais c'est le témoignage de Dieu, Dieu le Fils. Alors, regardons une petite analyse du livre. D'abord, il y a le commencement. Il commence là, à l'infini en fait. Il commence en éternité et il termine aussi son livre en éternité. Il y a un prologue que nous allons voir ce soir, donc qui sont les premières 18 versets. Ensuite, il y a le ministère, qui sont vraiment marqués par les discours de Jésus, qui commence à peu près à partir de verset 19 du premier chapitre, et qui s'élonge jusqu'au 12e chapitre du livre. Ensuite, il y a Jésus donc, qui prépare ses disciples pour l'avenir. Là, c'est la soirée avant sa crucifixion. Donc, c'est cet entretien si précieux. C'est les chapitres 13 à 17. Il y a aussi donc, la crucifixion et la résurrection qui sont au chapitre 18, au chapitre 20. Et enfin, il y a la conclusion qui est chapitre 20. 21, 21. Alors, une chose assez intéressante, c'est que dans le livre de Jean, qui est un livre, on dirait, presque mystique, c'est parmi les quatre évangiles, c'est l'évangile qui présente Jésus d'une façon que, après l'avoir lu, on ne peut pas être neutre. On ne peut pas dire il est bon enseignant, grand guérisseur. Si on lit et comprend tout à fait ce qu'il dit, on doit arriver à une conclusion. Il y a sept signes de Jésus qui témoignent de ce qu'il dit de lui-même. Le premier signe, c'est qu'il change l'eau en vin. Ensuite, il guérit le fils d'un officier. Il y a aussi la guérison d'un homme paralytique à la piscine à Jérusalem. Il y a aussi la multiplication des pains dans la région de Galilée. Il y a un passage où il marche sur les eaux. Il guérit aussi un aveugle. Et le dernier signe qu'il fait, à part de sa résurrection, c'est qu'il relève Lazare des morts. Alors, ce n'est pas une résurrection proprement dit, parce que Jésus est le premier. Parce que Lazare, bien qu'il se relève des morts, il doit mourir encore. Alors que Jésus, quand il est ressuscité, c'est pour toujours. Il y a également cette déclaration de « Je suis » par Jésus. Et c'est extrêmement important parce que rappelez-vous que dans le désert, quand Moïse a rencontré le Seigneur et il était devant le buisson ardent, Dieu s'est révélé en tant que je suis qui je suis. Et ça, c'est pourquoi chaque fois que Jésus dit je suis, ça fâche. Parce que en réalité, ce qu'il dit, c'est que je suis qui je suis l'Éternel. Et donc chaque fois qu'il prend ça, il y a une puissance extrême qui n'a pas passé inaperçue par ses auditeurs. Et on va voir justement les réactions sévères chaque fois qu'il prend ces paroles. D'abord, il a dit « Je suis le pain de vie ». Deuxièmement, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Troisièmement, il a dit « Je suis la porte de la bergerie ». Il a dit « Je suis le bon berger ». Quatrièmement, cinquièmement, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Sixièmement, il a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Et enfin, il a dit « Je suis le cèpe, le vrai cèpe ». Et donc, nous voyons avec ces sept déclarations, ces sept signes, qu'il y a une symétrie assez étonnante dans ce livre. Un livre, bien sûr, mystique, philosophique, on pourrait dire, mais surtout spirituel. Alors, qui était Jean, originaire de la région de Galilée, on a déjà dit. Il était aussi fils d'un entrepreneur, quelqu'un qui est Zébédée, qui a réussi dans sa commerce de pêche, tellement qu'il avait des servants et tout. Il était même connu par le souverain sacrificateur. Et donc, ça faisait de Jean un pêcheur de métier. Il aurait été aussi un disciple de Jean-Baptiste, c'est difficile à savoir, dans le récit, mais la façon dont c'est écrit, on a cette impression. Donc, il connaissait le souverain sacrificateur, et ce n'est pas n'importe qui le connaît. Donc, sachant que son père avait une certaine importance commerciale dans une région très affluente, ça donne l'idée qu'il était quelqu'un d'important. Il était aussi le dernier apôtre à mourir. Une chose qui va donner une certaine notoriété et aussi qui va créer une polémique à la fin de sa vie. Et cette polémique est traitée dans le dernier chapitre de ce livre. Pourquoi est-ce que Jean a écrit ce livre? C'est la grande question. Certes, c'était pour combattre des hérésies, parce qu'il y en avait beaucoup d'hérésies à l'époque. Déjà, dès le dernier des apôtres, il était en terre païenne. Et il y avait pas mal de mélanges entre le romanisme, entre le platonisme, le stoïcisme, enfin toutes ces philosophies grecques, et aussi les visions juives aussi. Alors, il se trouvait à une époque où, comme il a dit lui-même dans son épître, vous avez entendu que l'Antéchrist vient, voici, plusieurs sont venus. Oui, ça c'était une des raisons, mais ce n'était pas la raison pour laquelle. Une autre raison, peut-être, c'était pour compléter les autres évangiles. Le sien n'était pas pareil avec les autres. On pense que comme il y avait tellement de discours et de précisions, peut-être il a créé des notes quand il était toujours en Israël. Peut-être il a même rédigé en hébreu, il a gardé ses notes et tout ça, mais il n'a pas vraiment écrit réellement son évangile que plus tard. Et donc, peut-être c'était pour compléter justement ces autres évangiles, pour ajouter à ce qui était déjà écrit, certainement ça, mais ce n'était pas le tout. En fait, il nous donne la raison pour laquelle il a écrit, et il le dit en Jean 20, 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est-à-dire que Jésus est le Messie. Ensuite, qu'il est le Fils de Dieu. Donc ça fait rappeler de sa divinité. Et si nous croyons donc en lui, dans sa divinité, l'humanité, sa position en tant que Messie, nous pouvons avoir la vie éternelle, l'assurance justement de notre salut. Et ça, c'est donc une des raisons pour laquelle on demande souvent aux jeunes chrétiens, ou même aux incroyants aussi, de lire le livre de Jean, parce que s'ils sont honnêtes, ils ne peuvent pas être neutres à la fin. En fait, tout est écrit et détaillé pour augmenter et édifier la foi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La parole. Donc c'est quelque chose de connu à son époque. Étrangement, pour le peuple juif, dans leurs écrits, tels que le Targum, chaque fois que l'ange de l'Éternel se présentait, pour parler par exemple, l'ange de l'Éternel se présente devant Josué, en fait, on dit que la parole de l'Éternel se présente devant Josué, ou la parole se présente devant un tel ou un tel. Donc déjà, dans la hellénisation, donc l'influence grecque du monde israélite, juive, nous voyons que cette idée de la parole est aussi l'ange de l'Éternel, ou la parole véritablement de Dieu, est déjà née dans les esprits. Les Grecs, ils ont dit énormément sur la parole, parce que c'était pas seulement un mot, mais c'était la philosophie, c'était l'élan, c'était l'existence, c'était toute la pensée, tout dans un mot. Les Grecs disaient qu'avant tout acte, avant toute chose qui fut, il y avait donc une pensée, la parole. Par exemple, cette table, avant que ça ne soit construit, il faut qu'il y ait l'idée. On écrit, on fait des plans, et puis on crée et on bâtit la table selon l'idée qu'on a eue. Avant la table, fut la parole, ou donc l'idée de cette table. Et avant qu'il y ait une conversation, il faut qu'il y ait l'idée ou le désir de parler, quelque chose à dire, l'élan, un énoncé. Donc c'est la parole qui est à l'origine même de cette conversation, selon la pensée grecque. Alors, Jean, il prend un pas de plus en disant que la parole est incréée, c'est-à-dire qu'avant tout temps, avant que toute chose, la parole fut et la parole est Dieu. Encore plus, la parole est Jésus. Verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Jean, donc, qui vient pour rendre témoignage. L'apôtre ne parle pas de lui-même. Une chose qui est intéressante dans tout son évangile, il ne se présente pas avec son nom. Lorsqu'il dit le nom Jean, ça, c'est plutôt Jean-Baptiste. Alors, il parle de lui-même en tant que l'autre disciple ou le disciple que Jésus l'aimait. On va en parler une autre fois. Mais je crois que c'est vraiment par souci d'humilité. Il voit vraiment le commencement de ces choses, de toute l'histoire de Jésus, en commençant avec la venue de Jean-Baptiste. Ça convient parfaitement. Parce que, avant que Jean-Baptiste vienne pour témoigner, il y avait les prophéties de sa venue. La parole agissant au commencement des temps, en mettant toutes choses bien en ordre. Il vint, en fait. Le but de sa venue était seulement pour rendre témoignage à la lumière, donc une autre description de Jésus. Lumière, parce qu'il est pur, parce qu'il illumine cette lumière que donc Jean connaissait, ne venait pas de lui-même, mais ça venait plutôt de celui à qui il rendait témoignage. Ça venait de Christ, la parole, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu de se manifester d'une façon compréhensible aux hommes. Pour que, encore, comme dit Jean, de son but pour écrire ce livre, nous croyons en Jésus et en croyant en son nom, nous ayons la vie éternelle. Alors la véritable lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, si un homme est éclairé donc avec la lumière de Dieu, c'est parce que Jésus l'a éclairé. Et c'est très important parce que de l'époque moderne, enfin, depuis la Renaissance, on parlait de lumière d'une façon intellectuelle, humanistique. C'est en contradiction avec ce que dit Jean. Parce que Jean met bien la source de cette lumière et de cette révélation. Et donc, il ne veut pas dire que tout homme a déjà la lumière en lui. Car ainsi dire peut contredire d'autres versets qui parlent du péché premier. Du fait que l'homme en lui-même est pécheur. Et en tant que pécheur, l'homme n'est plus bon. Et il a besoin de Dieu. L'homme est en perdition sans Dieu. Donc il a besoin d'être éclairé. La Bible le décrit en tant qu'aveugle. Verset 10, la lumière était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Donc la parole, la lumière, et le monde ne l'a pas connue. Quelle tragédie. N'ayant pas la capacité de reconnaître son propre créateur. Encore plus, pour reprendre l'idée de la parole, de toutes les prophéties qui ont été dites depuis tout temps, et ont tout ça en main, n'ayant pas la capacité de reconnaître qui c'était. Pour faire plus d'impact, il dit, elle est venue chez les siens, donc son propre peuple. Les siens ne l'ont pas reçue. Les siens dans le sens que Israël existe parce que Dieu l'a créé à partir d'un homme. Donc il est venu chez son peuple qu'il a créé. Ils ne l'ont pas reçu. Et par le fait même de le recevoir ou de ne pas le recevoir, nous voyons plutôt la volonté. Alors que dans le monde, ils ne l'ont pas connu, c'est comme ils ne l'ont pas reconnu, ils se trompaient, ils étaient ignorants, mais ils ne l'ont pas reçu par contre. Ça, pour ça, il faut qu'il y ait reconnaissance, qu'il y ait aussi un choix qui a été fait, et un choix fait au négatif, une volonté de rejeter son Créateur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, maintenant, Jean, il commence vraiment à écarter tous les différents hérésies. Les hérésies qui disaient que, en fait, Jésus était seulement l'esprit. Parce que les platonistes croyaient que le corps était mauvais et tout ce qui est physique était mauvais. Non, il dit qu'il est venu chez les siens. Il était donc physique. Il écarte aussi cette idée que les véritables peuple juif sont seulement ceux qui s'accrochent à Moïse et rien d'autre. Non, il est venu chez les siens, ceux qui l'ont créé. Ou bien, il écarte aussi cette idée que c'est seulement une petite secte juive. Non, il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à n'importe qui, n'importe où, il peut recevoir la vie éternelle. Et c'est large. Et c'était destiné d'être large. C'était destiné à toucher tout le monde. Parce qu'il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Il y avait un problème. Et donc, il est dans le monde au travers de son Église. Et c'est maintenant l'Église qui est son corps, dans ses mains, ses pieds, sa bouche, enfin tout, et qui le fait connaître à travers de notre monde et qui donne cette possibilité de croire. Donc, ils sont nés de nouveau, nés spirituellement, pas d'un privilège aristocratique, ni par une mère porteuse ou une adoption, par une volonté, mais de Dieu. C'est spirituel. Bien qu'il reste dans le monde physique, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean, il faut toujours se rappeler, son évangile est écrit du point de vue d'un témoin réel. En fait, regardons rapidement comment il a commencé son épître. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Il faut se rappeler que ce que nous lisons est un document historique de quelqu'un qui a touché Jésus, qui l'a vu réellement. On peut très bien imaginer l'émerveil des disciples de le voir, surtout quand ils commençaient à réellement saisir qui c'était. Il y avait ces signes qui ont témoigné. Et imaginez, ils étaient avec Dieu incarné. Imaginons l'émerveille, justement. Regardez comment il dort. Certainement, ils l'ont observé à tout niveau. Comment il mange. Qu'est-ce qu'il mange. Comment il marche. On peut très bien imaginer qu'il marche à sa suite, un peu de sa façon, de sa manière. Peut-être qu'il prend même son accent. On voit souvent à la télé, justement, les gens d'une certaine politique, du point de vue politique, ils imitent justement la tête de leur parti. On peut très bien imaginer les disciples faisant pareil, tellement ils étaient émerveillés, touchés par cette personne. La parole, donc, son éternité dans la chair humaine, à la fois Dieu, à la fois homme, il ne cesse d'être ni l'un ni l'autre, mais il était plein de grâce. On pourrait même comprendre que Dieu éternel, dans la chair des hommes, en marchant parmi les hommes, serait un Dieu plein de sévérité, parce qu'il est saint, et nous ne le sommes pas. Il dit plein de grâce, qui est la faveur, donc l'amour qui n'est pas mérité, plein de vérité. Nous allons voir dans cet évangile à quel point il parle des choses, il dit des choses qui sont jamais venues à l'esprit, des choses merveilleuses, puissantes, existantes depuis tout temps. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, encore en parlant de Jean, quand Jean il a dit c'est celui qui était avant moi. Encore, il parle d'un homme qui est devant tout le monde. Tout le monde le voit, l'homme dont il parle, qui était avant moi. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé en le livre, l'évangile de Luc. D'abord, l'ange est venu à Zacharie. Zacharie, le père de Jean. En fait, Jean est né avant Jésus. Et puis, Jésus est venu, est né. Comment ça se peut qu'il dit qu'il est avant moi si on ne parle pas de Dieu, de son éternité? Il est avant moi. Il était déjà là. Il m'a précédé. Car il était avant moi. Il était. Pas « il a été », comme si ça était terminé, « il était ». Et nous avons tous reçu de sa plénitude, une plénitude de bénédiction juste d'être dans sa présence, une plénitude de guérison, de discours, d'enseignement, de richesse. Et grâce pour grâce, une continuité de grâce sans cesse. On peut très bien imaginer à la fin de leur journée, ils étaient fatigués. Quand ils ont vu les choses qu'ils ont vues, Jésus, quand ils ont entendu les discours de Jésus qui ont tellement bouleversé son monde. Quelque part, on n'est pas fait pour vivre toujours à l'extrême émotion. Et eux, pendant 3 ans et demi, ils vivaient justement à l'extrémité de leur force, de leur capacité, et même au-delà. Jésus, dans son être, bien sûr, il est poussé plus loin dans son enseignement, donc ça poussait plus loin leur intelligence dans tout ce qu'ils faisaient, donc physiquement, dans tous les voyages qu'ils ont entrepris en allant de Galilée à Jérusalem et en Jourdain, ils ont traversé le pays plusieurs fois, mais toujours avec une force puissante surnaturelle qui a comblé tout leur manquement. Grâce pour grâce. Infini, comme un océan de grâce qui n'était pas capable de recevoir une petite partie. Car la loi était donnée par Moïse. La loi est bonne, est parfaite. Il y a quelque chose de supérieur. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire que même la loi qui a été donnée à Moïse, comme c'est la vérité, c'est venu de Jésus. Jésus a même précédé Moïse, car il était avant lui. Il est supérieur, car il donne la totalité de la vérité. Que Dieu est saint et juste, mais Dieu est aussi amour. Donc grâce, l'équilibre parfait. Donc personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire que Dieu le Père. Il y avait des moments où on a vu Dieu. Par exemple, Ésaïe dit, en Ésaïe 6, « J'ai vu le Seigneur. » Mais c'était probablement Jésus. C'était probablement aussi sa gloire. Personne ne peut voir sa face, son visage et vivre. Moïse qui a demandé justement de voir sa gloire, Dieu a dit qu'il ne faut pas parce que personne ne peut le voir et vivre. Et Moïse, il avait encore du boulot à faire. C'est pour ça que Dieu l'a mis dans le rocher et l'a protégé pour qu'il ne voit juste son dos et la gloire passagère. Personne n'a jamais vu Dieu. Et pourtant, comment est-ce que l'homme peut avoir une relation avec Dieu? Comment est-ce que l'homme peut être sauvé? Parce que personne n'a jamais vu Dieu, parce que nous sommes tellement détruits et dégradés par le péché que nous sommes dans l'incapacité de voir Dieu. Pourtant, Dieu aime les gens et il veut les sauver. Il ne veut pas que tout le monde périsse. C'est pas ça sa volonté première. Mais c'est le salut, c'est l'amour. Mais comment faire? C'est dans la personne de Christ. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est-à-dire quand nous voyons Jésus, nous voyons le Père. Dieu est un. Écoute Israël, le Seigneur votre Dieu est un. Mais il est intéressant dans cette phrase, parce qu'on utilise même le mot Elohim, qui est un mot de pluriel. Et on dit Elohim, pluriel, et un Seigneur. Il n'est pas plusieurs dieux, il est un Dieu qui se révèle en 3 personnes. Jésus, donc, nous a montré le Père. Il l'a fait connaître physiquement. On veut savoir ce que le Père pense d'une chose. Il faut regarder ce que Jésus a dit. Comment le Père réagit. On regarde Jésus. La 3e personne, le Saint-Esprit, c'est donc son esprit en nous. Et donc, nous qui voulons être transformés dans l'image de Dieu, nous suivons les inclinations de l'esprit. Donc, c'est l'Esprit maintenant qui agit. C'est toujours le même Dieu, un seul Dieu. mais qui travaille dans ce monde par la personne du Saint-Esprit. Dieu. Un Dieu en trois personnes. Et c'est très important, ce n'est pas comme disent les témoins de Jéhovah, qu'au commencement était la parole, et la parole était un Dieu. Ils ont ajouté un article pour faire une différence, pour qu'ils s'échappent à dire que, ou admettre que Jésus est Dieu. Mais ils ont fait une grosse erreur, parce que en ajoutant le petit article, un Dieu, qui était de leur imagination tout propre, ils ont créé un panthéisme, parce que ce n'est plus un seul Dieu, mais plusieurs. Et donc, nous voyons que ils ne sont pas chrétiens, quoi qu'ils le disent, puisque ils ne louent pas le même Christ. Et si nous ne parlons plus du même Dieu, évidemment, nous ne sommes plus dans la même religion. Par contre, un catholique, protestant, un orthodoxe qui reconnaît ce même Dieu, le seul Dieu, mais révélé en trois personnes, nous sommes plus sur le même chemin que quelqu'un qui nie le Fils, qui nie le Père, mais ces choses suivent cette logique. Et donc Jean, on le remercie pour son évangile, parce que là, dans son prologue, je crois qu'il a balayé pratiquement toutes les hérésies que le monde nous a donné, ou Satan nous a donné depuis 2000 ans. Il est à la fois Dieu et homme, il est sauveur, il est créateur, il est lumière et il est plein de grâce. Il est la parole. Donc ça, c'est notre Dieu. Voici votre Dieu. Quand nous parlons du nom de Jésus, voilà de qui on parle. C'est très important de savoir de qui on parle, parce que Jésus, en tant que simple homme, bon, c'est bien, mais c'est pas mon Jésus. Ou Jésus, le bon enseignant, d'accord, mais c'est pas le Jésus à qui j'ai donné ma vie. Mais ce Jésus, au commencement, qui était avec la parole, qui était avec Dieu, et était Dieu, et qu'il est, qui est venu dans la chair, qui a habité parmi nous, qui nous a montré la grâce, qui a tout accompli. Alors là, nous parlons de quelqu'un radical. Alors, voyons un petit peu. Verset 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ?» Il confessa sans le nier. Il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent, « Crois donc, es-tu Élie ?» Il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit non. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu ? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Et je ne suis pas digne d'élier la courroie de son sandal. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, le témoignage de Jean est percutant. Il commençait à amasser des foules. Les gens venaient de partout de l'entendre. Il s'habillait à la façon d'Élie. Et rappelons-nous que un des derniers versets de Malachie, on parle, Dieu parle, d'envoyer Élie pour ramener les gens à lui. Et donc, sachant que Élie doit venir avant Christ, il pense tout de suite à Élie, surtout la façon dont il s'habille. Ça correspond tout à fait à la manière dont Élie s'habillait aussi. Et il voyait qu'il se tenait à l'écart comme Élie, qu'il ramassait des gens, qu'il parlait très fort aussi comme Élie. En baptisant les gens, si vous voulez, c'est traiter les autochtones comme des prosélytes, comme s'ils n'ont jamais été dans la foi. Baptisez-vous, convertissez-vous, car vous n'avez rien compris, car le Seigneur de la vie vient, il faut vous préparer. Mais Jean dit, je ne suis pas Élie. Jésus a dit une fois, pour ceux qui peuvent l'accepter, qu'il est venu comme Élie. Il est l'Élie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est l'Élie dont parle Malachie? Ou est-ce qu'il y ait peut-être une autre venue à venir? Sachant que Élie n'est jamais mort, mais il était enlevé. Et s'il doit revenir, il se peut qu'il soit un de ces deux témoins qui se tient devant le temple en Apocalypse. Donc à la fin des temps, avant que Christ ne revienne. Ça correspond. Il dit non, je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le Christ non plus. Car il demande qu'il se convertisse, quand le Messie vient. C'est un changement radical. Et est-ce que donc tu es celui-ci? Non. Est-ce que tu es le prophète dont Moïse a parlé en Deutéronome 18 quand il a dit « Il viendra un prophète plus tard ». En fait, nous connaissons, grâce à Pierre, le jour de Pentecôte, que ce prophète dont on parlait, dont Moïse parlait, est en réalité Christ. C'est Christ le prophète. Et ça, nous avons grâce au discours de Pierre, le jour de Pentecôte, en Actes chapitre 2. Car Pierre, il le dit très clairement, Christ était ce prophète. Mais ça nous montre qu'à l'époque, il ne savait pas que si c'était le Messie lui-même, ou peut-être une autre personne. De nos jours, ceux qui refusent Jésus dans le judaïsme disent que le prophète était Josué, parce que c'était la prochaine personne qui a pris le relais, après Moïse. Une autre chose très importante à savoir, à l'époque, les pharisiens ne cherchaient pas le Messie. Notez bien, ils ont été envoyés de Jérusalem. Si le Sanhédrin pensait réellement que c'était une venue réelle du Messie, il serait les premiers d'y être. Mais à cette époque, il y avait une croyance que le Messie ne pouvait pas venir. Et quand ils voyaient, parce qu'il y avait beaucoup d'autres prétendus messies, ils avaient l'habitude, donc ils envoyaient leurs hommes, l'inquisition, justement pour l'arrêter tout de suite. Et pourquoi? Parce que en Genèse, chapitre 49, verset 9, nous avons une prophétie intéressante de la part de Jacob. Il dit « Judas est un jeune lion ». Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh, non? C'est un mot un peu en dehors du normal, un mot qui en fait référence au Messie. Et donc, il disait que, comme Jacob a dit, que le sceptre, donc l'autorité du royaume de Juda, ne lui sera pas enlevé avant que le Messie vienne. Là, ils étaient dans une situation où Juda n'avait plus de pouvoir. Remontant dans le temps un petit peu, avant que Hérode ne vienne. Hérode n'était pas israélite. Hérode était édomite. Il avait une certaine culture juive, mais il était toujours reçu comme un étranger. il était donné, en fait c'était César qui lui a donné son pouvoir. Et on regardait Hérode comme un roi étranger et le symbole de Rome. C'est pourquoi que Hérode se contentait de construire des grands monuments, craignait toujours sa vie, mais il était aussi fou, fou de rage, fou de jalousie, toujours en essayant de gagner le respect d'un peuple qu'il rejetait complètement. Et avant lui, c'était des rois asmoniennes, peuple pas forcément des Lévites, mais plutôt de Judas, qui on a permis qu'ils règnent en quelque sorte. Mais eux, ils avaient le pouvoir de mettre à mort quelqu'un, ou ils avaient vraiment le sceptre, donc le pouvoir dans le pays. Mais quand Hérode s'installe, c'était terminé. Et quand il y avait ce moment-là, il y avait beaucoup de pleurs, d'angoisse et de sanglots parmi les chefs religieux, car ils croyaient qu'ils ont raté le Messie, ou que le Messie ne pouvait pas venir. Il envoie plutôt une inquisition qu'une véritable équipe de recherche. C'est devenu politique, froid. Ils veulent savoir justement qui est celui-ci qui attire tellement du monde, qui trouble le public, qui appelle même le roi Hérode, non, pas Hérode le Grand, mais un autre, un de ses descendants, à se repentir. Quel ambitieux, audacieux, qui est-il? Et il dit, je suis, comme Ésaïe dit, celui qui est envoyé avant. Il ne prend pas la gloire pour lui-même. Mais il le donne complètement et solidement à Dieu. Il ne dévie pas un petit mot de son véritable appel. Il sait qu'avant toute éternité, il est appelé pour donner gloire à Christ. Et donc le lendemain, il vit Jésus venir, après avoir témoigné. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est puissant comme phrase, parce qu'il y a des gens de partout qui venaient en foule, en masse. Et puis il voit un homme et il dit, voici l'agneau de Dieu. Et ça parle beaucoup, parce que tout leur système religieux est basé sur des sacrifices de purification. Le jour le plus saint, donc le Yom Kippour, en fait, on sacrifie plutôt des boucs. Mais le jour qui a donné naissance à leur nation, c'était des agneaux. Et l'agneau est donc devenu le symbole par excellence des sacrifices purs offerts à l'Éternel. En disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il annonce son sacrifice. Donc un agneau pur, sans faute, un agneau donc qui accomplit tout le système sacerdotal. Et deuxièmement, il annonce sa divinité. C'est pas n'importe quel agneau, mais l'agneau de Dieu. Troisièmement, il annonce que sa mission est enlever le péché par ce sacrifice. Et donc, il annonce tout ça dans un mot. Et d'ailleurs, c'est une chose très, très forte, parce que il est un des derniers prophètes et il dit une chose qui fait référence à ce que Abraham a fait quand il a offert ou a presque offert son fils Isaac sur l'autel, qui est accompli sur la croix, tout sur cette même mont Moria, là où le temple est. Il dit dans une phrase, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, encore éternité. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Voilà, dans une phrase, sa mission. Baptiser de route ces gens, préparer ces gens pour la venue du Messie. Et quand il arrive, de passer le bâton pour que les gens le voient. C'est-à-dire ce qui se passait dans le désert avec Jean, Dieu était en train d'attirer les justes et les gens sincères à lui. Il attirait l'attention pour que tout le monde soit là, pour que le moment où son fils arrive, tout le monde le voit et le reconnaît. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'affiche partout. Il fallait qu'il le voie et Dieu a orchestré parfaitement les circonstances pour que tout le monde, ou le plus grand nombre de possibles, soit présent. Il pouvait. Et donc, Jean rendit ce témoignage. Donc, c'est plus tard. Il dit, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint et moi. J'ai vu, j'ai rendu témoignage que c'est le Fils de Dieu. » Notez-le bien, il ne reconnaissait pas avant qu'il ne voyait la colombe descendre sur lui. C'est-à-dire que Jésus était tellement humain qu'on ne pouvait pas le distinguer dans une foule. Or, rappelez-vous qu'ils étaient cousins. Marie et Élisabeth étaient cousins, cousines. Et donc, s'ils devaient se connaître, c'est bien plus possible qu'il y ait au moins une reconnaissance familiale. Or, en regardant autour de lui, il ne reconnaissait pas avant que la colombe descende sur lui. Ça montre aussi qu'ils étaient élevés dans deux endroits totalement différents. Nazareth, en fait, était une implantation de la ville de Bethléem au nord. Les gens de Bethléem, en fait, ils sont allés au nord pour s'installer. Ils ont créé la petite communauté de Nazareth. Donc, ça explique pourquoi ils pouvaient grandir tout à fait séparés, car des familles entières étaient maintenant divisé entre ceux de Nazareth et ceux d'en sud en Juda. Et donc, quand il voit, encore nous voyons la Trinité alors, le Père lui parle en disant, celui que tu verras, c'est lui le Christ. Il voit le Saint-Esprit descendre sur lui. Il est roi pour son service et en face du Seigneur Jésus. La Trinité. On va arrêter là ce soir, je pense. Il y a déjà beaucoup à dire. Donc, nous avons vu qui est notre Seigneur. Nous avons vu la mission accomplie de Jean-Baptiste. Et donc, sachant que sa mission sur terre, parfaitement accomplie d'ailleurs, était de toujours donner gloire et de rendre témoignage de lui, nous pouvons le comparer à notre mission, qui n'est pas trop différente. Car nous sommes maintenant remplis du Saint-Esprit et nous avons aussi une mission de rendre gloire à Dieu par notre témoignage. Et donc Jean nous donne un très bel exemple. Il n'a pas nié, mais il a dit, je ne suis pas le Christ. Ce n'est pas moi qui est bon, je ne suis pas naturellement bon, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Je ne suis pas quelque chose de bien. Ce n'est pas parce que j'aime faire ce qui est de bien que je suis comme je suis. Mais c'est parce que je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je rends gloire à Dieu. Je fais témoignage de Jésus. Je rends témoignage de lui. Et de cette même manière que lui remplissait son rôle, sa mission, remplissons aussi la nôtre. Donnons gloire à Dieu par notre témoignage. Un témoignage qui doit tôt ou tard passer aussi par la parole, comme ça a été le cas avec Jean. Et notez bien, quand il a parlé de Christ, il a parlé de l'agneau de Dieu, il parlait de sa mort,
son sacrifice, le même sacrifice par lequel nous sommes sauvés.